Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a eu vraiment des informations contradictoires en fin de semaine. D'abord, il y a eu un article sur lequel je suis tombée qui montre à quel point, qui démontre même à quel point la transmission du coronavirus se fait de façon exponentielle dans les avions. C'est un article où on détaille, évidemment, avant que le masque soit obligatoire dans les avions, à quel point c'est facile de transmettre le virus quand on est dans un endroit fermé comme les avions. Et un autre article où on nous disait qu'il y a différentes compagnies d'aviation maintenant qui, quand on achète un billet avec eux, fournissent en même temps de l'assurance pour la COVID. Fait que là, je me retrouve complètement dépourvue, très ambivalente, en me disant, bon, OK, peut-être que ça me tenterait, en effet, de voyager avec Air Canada, d'aller dans le sud, parce que, bon, là, je serais sûre d'avoir de l'assurance COVID. Puis en même temps, ce texte-là qui nous dit à quel point la transmission se fait facilement dans les avions, je me suis dit qu'on allait pouvoir en parler avec notre chroniqueur du lundi, parce que c'est un amoureux des voyages. Jean-Michel Dufault, bonjour.
Salut Sophie.
Écoute, je voyais sur les médias sociaux l'ancien animateur de radio Michel W. Duguay qui mettait des photos de lui dans un resort à Cancun. Lui, il a pris l'avion, aucun problème, il dit que c'est super sécuritaire, puis il arrête pas de nous écœurer tout le monde avec ses photos du Mexique. Alors, je te pose la question, Jean-Michel, toi, le ferais-tu? Prendrais-tu l'avion pour aller dans un... Peut-être pas dans un resort, parce que c'est pas ton genre, mais prendrais-tu l'avion pour aller au Mexique, sachant ce qu'on sait aujourd'hui?
C'est drôle, parce que je suis un peu en train de débattre là, mon ami. Là, ça fait depuis décembre que j'ai pas pris l'avion. On sait pas l'automne qu'on va avoir. Je pense qu'avec les nouvelles, c'est sûr que j'y vais avec des mesures très très disciplinées de masques, de lunettes et d'assurance. Je pense que s'il y a moyen, comme tu disais, d'avoir une assurance, parce que mon inquiétude elle est plus de tomber malade à l'étranger que dans l'avion. Je crois que maintenant dans l'avion on fait vraiment attention, sauf que. Et comme tu dis dans l'article de CNN ce week-end, avant que les gens mettent des masques, des cas de transmission. Parce que maintenant aussi, puis moi ça fait d'ailleurs, par mon malaise, ça fait un bout de temps que je sais que c'est vraiment les aérosols le plus dangereux. Ça se transmet dans l'air. Et donc, dans les endroits où l'air est vicié, dans l'air est renfermé, c'est dangereux, comme les avions. Supposément qu'ils ont maintenant, ils font vraiment attention au système de ventilation. Le vol avec un masque, être discipliné, faire attention, ne me fait pas trop peur, mais je pense qu'il va falloir avoir des politiques, oui, des assurances pour les voyageurs à l'étranger. S'il y a une maladie, ben on est couvert. Et je pense que ça va rouvrir tranquillement les portes du voyage, parce que sinon, je vois pas comment les gens vont partir l'esprit tranquille.
Oui, parce que c'est quand même un aspect extrêmement important. C'est sûr qu'il y a toujours des têtes folles, hein? On en a vu au cours des dernières années, et j'utilise vraiment le mot tête folle sciemment, là, j'ai aucun problème à traiter ces gens-là de d'hurlu-berlu, des gens qui partent en voyage, puis ils pensent qu'on va brailler sur leur sort parce qu'ils se sont retrouvés à Tombouctou et qu'ils sont tombés gravement malades ou ils ont eu un gros accident, puis là, ils demandent à être rapatriés au pays. Là, on dit, ben oui, mais vos assurances. Puis là, ils disent, ah, mais c'est parce que je suis parti, mais j'ai pas pris d'assurance. Quelqu'un qui voyage sans assurance, excuse-moi, c'est pas juste niaiseux, c'est fou furieux, là. Oui. Bon.
C'est fou furieux, puis t'es responsable, c'est pas au gouvernement et à nous à payer pour ce rapatriement quand, surtout, on sait maintenant ce qui se passe. Je suis absolument d'accord avec toi.
Donc, le manque d'assurance a longtemps été un frein. Puis en même temps, je regardais ça en fin de semaine, toutes ces compagnies, donc soit des compagnies d'assurance ou les compagnies d'aviation elles-mêmes qui disent, ben vous pouvez partir, puis là, on va pouvoir, si vous tombez malade, on s'occupe de vous. Je me disais, il y a un côté inconscient quand même, Jean-Michel, parce que au moment où on se parle, Justin Trudeau, il a pas changé les règles. Le gouvernement, les affaires étrangères dit, aucun voyage si c'est pas essentiel. Et en plus, si vous revenez, c'est 2 semaines de quarantaine obligatoire. Donc, est-ce que c'est pas inconscient de la part des compagnies de dire, oh, ben, tenez pas compte du gouvernement, nous, venez nous voir, puis nous, on va vous... C'est faire passer l'argent avant la santé, là.
Un peu, et puis t'as un peu comme dans tout ce cette façon de gérer cette crise, il y a des fois des signaux qui sont différents d'une part et d'autre. Et c'est un autre cas. Tu as raison, là, on parle de 14 jours. Il y en a qui disent c'est 10 jours qu'on revient. Certains sont surveillés, certains ne sont pas surveillés. Je suis un peu d'accord que partir juste comme ça, si c'est pas pour le travail, c'est juste des vacances, c'est un peu mal vu, puis avec raison, parce que c'est pas réglé. Donc, par contre, pour des questions de travail, je peux comprendre que dans des cas vraiment liés au travail, je pense qu'il faut permettre certains voyages. Mais c'est vraiment une zone grise qui est pas claire encore, et surtout qui est pas claire comme on sait pas à quoi va ressembler l'automne et l'hiver là, 2020-2021.
Mais tu sais, ce serait un petit peu contradictoire quand même. Tu sais, je regarde les bars qui sont obligés de fermer, d'arrêter de servir de l'alcool à partir de 11h, qui doivent fermer à partir de minuit. Nous, on se fait dire, chez vous, pas plus de 6 personnes, alors qu'on était à 10 personnes. Tu sais, le ministre Dubé qui se met quasiment à genoux en disant, s'il vous plaît, faites pas de réunion si vous êtes pas, si c'est pas vraiment essentiel, essayez d'éviter tout ça. Puis à côté de ça, il y aurait des gens qui diraient « Ah ben oui, on s'en va à Waikiki Coconut parce que moi, je peux pas me passer de mon pina colada puis d'avoir les pieds dans le sable. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a un côté, ouais, je trouve, un peu nombriliste aussi.
Oui, mais ça, c'est la nature humaine. Hein? Malheureusement, la nature humaine passe plus souvent à elle qu'aux autres, malheureusement. Mais cela dit, je pense que depuis que les politiques sont plus surveillées dans les avions au niveau de la salubrité, etc., de l'air, la qualité de l'air, il y a très peu de cas de transmission qui ont été notés. Donc, c'est pas tant ça, mais c'est la responsabilité. En tout cas, comme tu disais, si tu pars, ben, t'es responsable. Et peut-être qu'il y a moins de risques ailleurs qu'ici. Il y a un risque tout le temps, mais dans les avions, depuis que les politiques là, sont plus sérieuses envers le virus, il n'y a pas tant de cas de transmission de ce que j'ai noté là. Donc, c'est pas tant ça qui est dangereux, c'est vraiment d'être à l'étranger, puis là, de vivre inconsciemment comme si ça n'existait pas, alors que ça existe pas mal partout sur la planète. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des chances de l'attraper ici. Il faut que tout le monde soit discipliné. Et c'est peut-être pas la première urgence que d'aller se prélasser au soleil, là, on est d'accord.
Ouais, mais en même temps, il y a plein de gens aussi qui utilisent l'argument psychologique de dire, regarde, ça fait depuis le 13 mars qu'on est... au début, c'était un confinement évidemment très sévère. Après, on a déconfiné, mais il y a quand même tellement d'interdits que tout ça pèse psychologiquement. Et on sait à quel point, les dépressions saisonnières, puis je pense qu'il faut pas minimiser ça non plus. Tu sais, l'hiver s'en vient, on va vivre des jours très sombres, il va faire noir à 4 heures l'après-midi. C'est sûr que de pouvoir aller dans le sud, profiter de la lumière, ça peut faire un bien énorme au point de vue psychologique. Donc cet argument-là est beaucoup utilisé aussi. Est-ce que, selon toi, c'est un argument valable ou pas?
Je pense que si les gens prennent leurs responsabilités et ne se mettent qu'eux en danger, je pense que je suis capable de vivre avec ça. Mais comme tu dis, c'est pas après ça, s'ils se plaignent, s'ils sont malades, c'est pas à dire « Ah, ben le gouvernement a envoyé un avion pour moi seulement parce que j'aime pas comment je suis traité à l'hôpital ici. » Non. Là, t'as pris des assurances privées et t'es responsable. T'es une grande personne jusqu'au bout. Et à ce niveau-là, moi, je peux pas... Tu sais, comme par exemple, personne, je pense, a le goût d'aller vraiment aux États-Unis, quoi qu'il y en a, ça a l'air qu'ils ont malgré tout le goût d'aller en Floride. Mais il y a des endroits de la planète où peut-être c'est même moins virulent qu'ici. Si c'est fait dans des bonnes conditions, si on veut, moi, je suis capable de vivre avec ça. Mais comme tu disais, je pense qu'à ce moment-là, prenez-vous quand même une assurance privée. Soyez logique avec votre décision et je peux vivre avec ça, en tout cas. Moi, ça me dérange pas tant que ça, là, pour l'instant.
Bon, c'est juste que tous ces gens-là vont nous écœurer parce qu'ils vont revenir tout bronzés, tout grillés, alors que nous, on va être blême, qu'on va être gris-vert, voilà. Puis qu'on va être... Mais en fait, ça va être facile de les reconnaître. Tu sais, tu te promènes dans la rue puis tu vois quelqu'un qui a vraiment un visage très, très, très bronzé en plein mois de novembre, mettons, ou début décembre... Ben, t'as même pas besoin de lui demander, avez-vous voyagé au cours des 14 derniers jours? Écoute, je voulais absolument parler avec toi parce qu'on sait, on connaît évidemment ta passion pour les voyages, mais aussi ta passion pour la télévision puis la culture populaire. Tu as regardé le gala des Gémeaux, sur une note, sur une possibilité de 10, premier gala, donc, post-pandémie, ou en plein dans la pandémie. Tu donnerais une note de combien sur 10?
C'est difficile à dire, mais j'aurais un respectable 7,5 qui est diminué par le fait qu'il y a quand même moins la magie par cette distanciation en salle. ce drôle de climat. Par contre, j'ai trouvé quand même qu'ils ont assez bien fait, pas seulement à cause, par exemple, de la première scène avec la réalité augmentée, qui était d'ailleurs très bien réussie, mais au moins, ils ont mis des gens dans une salle avec la distanciation, et c'était quand même moins pire que de ne pas avoir personne et de tout faire par Zoom. Parce que moi, la vie par Zoom, la vie par écran, j'en peux plus. Je suis
capable.
Me déprime maintenant de voir tous ces Zooms. Et c'est drôle parce que même les Emmys, de l'autre côté, chez nos amis américains, avaient beaucoup plus, je trouve, de Zoom. Et ça faisait encore, on était encore comme avant, c'était déprimant. Donc, en général, j'ai quelques petites notes, là, je peux y aller rapidement.
Ouais, ben, vas-y.
Il y a toujours une relation amoureuse avec ces galas-là, parce que c'est une grosse infopub pour la télé, pour la télévision, ça se lance des fleurs, ça se vend, donc c'est comme, tu sais, la télé, oui, c'est formidable, mais la télé, c'est pas toujours formidable non plus. Cette boîte-là, elle est dangereuse. S'il y a un président américain qui s'appelle Donald Trump, tout le monde le sait, c'est à cause de la télé, qui l'a fait connaître avec The Apprentice. C'est la télé qui a construit ce personnage et qui a menti comme si c'était un homme d'affaires qui avait du succès et qui avait toujours eu du succès. C'est la télé qui est responsable de Trump aux États-Unis. C'est la télé qui nous a vendu des gens au dragon qui n'étaient pas si bons que ça. Donc, la télé aussi, tu sais, ça se vend, mais donc ça. Quand même, des efforts, je veux quand même noter que je trouve que Véro, en général, est toujours bonne. C'est difficile de faire de l'humour quand il y a moins de gens dans la salle, quand il y a plus de silence, mais en général, elle a fait une bonne job. On a mis plus de gens de couleur, ça, je trouve ça bien aussi. Il y a eu une partie à ce niveau-là.
Oui, alors attardons-nous un petit peu là-dessus, parce que c'est sûr que dans la catégorie des nominés, des personnes en nomination, il y avait très peu de diversité, pour pas dire pas du tout, et ils ont fait un effort. Comme par exemple, quand on a fait une chanson en hommage aux gens des nouvelles, ben il y avait Louis-Jean Cormier, et il était accompagné de Mariem et de Mélissa Bédard. Donc, qui sont deux femmes noires, en plus d'être des super bonne chanteuse, là. À un moment donné, il y a un prix qui a été présenté, c'était Monsieur Fayol.
Fayol Jean et son junior.
Voilà, exactement.
Qui est avec Laurent Duvernay-Tardif. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a eu des efforts au niveau des présentations. J'ai mis le petit clin d'œil aux gens un peu plus âgés, mais encore là, je trouve que c'est dangereux. On fait de l'agisme d'une autre façon. Eux, on les met en Zoom, on les met toujours à travers un écran. C'est un peu la même chose cet été dans le show de Jean-Philippe Vautier, qui était sympathique, mais c'est comme si, oh, ils sont tellement vieux, ils sont pas capables de se déplacer. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Je sais que c'est pour cette capsule-là, hier, il y avait l'idée de l'entrevue avec des gens, avec des jeunes, mais aussi, il faut pas juste les mettre via Zoom, les gens un peu plus âgés, il faut les inclure dans le party.
Oui, mais attends deux secondes. Oui. Attends deux secondes, Jean-Michel. C'est qu'une des raisons pour laquelle on les met en Zoom, c'est parce qu'ils sont plus à risque. Donc, c'est sûr que tu veux pas que Shirley Theroux ou Patsy Galland contractent le coronavirus, parce qu'on le sait, plus les gens augmentent en âge, plus le virus peut être fatal. Donc, c'est vraiment pour les protéger, là.
C'est vrai, mais je pense que des fois, il y a quand même une zone grise entre l'âgiste commence à quel âge l'âgiste commence, à quel âge ça devient vraiment dangereux. Tu soulignes un bon point, absolument. Rapidement, c'est pour ça que je t'aime, Thierry, que j'ai beaucoup aimé, content qu'elle ait remporté des prix. Mais pour moi,
je pensais que tu me parlais en disant c'est pour ça que je t'aime. Oh, je suis déçue. Vas-y, continue.
Aussi, une des vedettes, c'est Luc Dionne. Je veux dire, la charge de travail de Luc Dionne.
Incroyable.
C'est incroyable. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de pondre, c'est quoi, c'est presque 2 heures de texte par semaine. Ça n'a aucun sens. C'est un surhumain et bravo pour ça. Juste quand même mettre un petit pavé à la mare. Tu sais que la Berlinale, cette année, ce grand festival de films de Berlin, qui a été fondé en 1951, ne fait plus de prix genrés. Elle fait maintenant des prix non genrés. Et je me posais la question, je me disais, est-ce qu'un jour les acteurs et les actrices seront dans la même catégorie et gagneront leur prix? Parce que les gens derrière l'écran, on fait pas de prix genré pour la réalisation, la direction photo,
c'est vrai. Ça.
Mais devant l'écran, on est genré. Donc, je pose juste la question, est-ce que tu as l'impression que ce mouvement... En tout cas, la question se pose. C'est intéressant ce que Berlin a fait. Ça fait quand même réagir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir? Évidemment, ça veut dire moins de prix. Alors peut-être que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est un petit clin d'œil quand même. Je regardais ça hier, je me disais, on est encore dans le vieux modèle prix femme, prix homme.
Oui, puis moi je trouve ça intéressant ce débat-là, sauf que ce débat-là, il est motivé, disons, par toute cette mouvance qui dit « Ah ben le genre, c'est une invention, c'est une construction sociale, moi si je me lève demain matin puis que je considère que je suis non-binaire, ben je vais demander est-ce que tout le monde parle de moi à la troisième personne et que je veux utiliser, je n'utiliserai plus de pronoms masculins ou féminins parce que qui êtes-vous pour me dire que je suis une femme? Je suis rien du tout. Ce que je trouve un petit peu une construction de l'esprit plutôt qu'une construction sociale. Donc, la discussion peut être intéressante. Mais imaginons que... on fait en effet un prix non-genré aux Gémeaux, OK? Donc, Gilda Roy se retrouve dans la même catégorie que Catherine Proulomé, mettons, OK, d'accord? Alors, mettons que une année, tous les prix meilleurs comédiens sont remis à des gars. Le premier prix de soutien, comédien de soutien, rôle principal, comédie dramatique, tous les prix, c'est des gars. Ben là, je te jure... qu'il n'y a plus personne qui va trouver que c'est une bonne idée d'avoir des prix non-genrés. Parce que dans le fond...
Oui.
Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, ça part d'une supposément bonne intention, mais il y a un agenda social et politique derrière ça. C'est que si, par hasard, tous les prix sont remis à des gars, ben là, tout d'un coup, on va trouver que c'est pas une bonne idée, puis on va trouver que finalement, le genre, c'est important.
Oui, exactement, mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Je dis pas qu'il faudrait le faire. Je trouvais juste ça intéressant que ça a été quand même fait en 2020 dans un festival prestigieux. Et je me demandais, est-ce que ça, c'est un début de mouvement ou c'est juste un cas isolé et ça va arrêter là? Et dans le fond, je me posais la question, qu'est-ce que les gens en pensent? Moi, je suis pas certain que c'est une bonne idée. Mais je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, dans cette mouvance de gens qui disent il faut arrêter de genrer, il faut arrêter d'avoir un mot pour les femmes qui sont écrivains et un mot pour les hommes qui sont écrivains, il faut arrêter de... Donc, je me disais, est-ce que cette logique-là, elle va jusque-là ou non? Où est-ce qu'elle commence, où elle arrête? C'était plus à ce niveau-là, cette réflexion, parce que récemment, là, au mois d'août, Berlin a débuté cette façon de penser différemment au niveau du travail des acteurs et actrices. Et
c'était juste
le petit clin d'œil par rapport à elle.
Il faut préciser quand même que ça s'applique uniquement acteur-actrice, parce que si je regarde toutes les autres catégories aux Gémeaux qui sont des catégories devant l'écran, comme animateur d'un magazine culturel ou animateur de variété ou animateur de quiz et tout ça, les filles et les garçons sont en compétition les uns avec les autres. Véronique va être en compétition avec Guilla, ou je sais pas moi, Sébastien Diaz va être en compétition avec un autre là, je manque de noms là parce que mais donc dans toutes sortes de catégories, les gars et les filles sont, tu sais, mais je veux dire, mettons meilleur animateur d'un bulletin de nouvelles là en information. Oui. Ben là, ils sont devant l'écran et pourtant on fait pas de différence entre les filles et les garçons. Sophie Thibault est en compétition avec Patrice Roy. Donc c'est de se poser plutôt la question pourquoi on le fait pour les comédiens et qu'on le fait pas dans les autres catégories de métiers devant l'écran.
Exactement. Ça, écoute, ça résume ma pensée. C'est ça. Pourquoi c'est vraiment dans les rôles de composition.
Voilà, c'est ça. Alors, écoute, tu voulais prendre quelques instants pour nous parler de la fameuse RBG qui est décédée au cours des derniers jours. Alors, présente-nous qui est cette femme si importante aux États-Unis.
Ben d'ailleurs, j'invite les gens à regarder, on leur remet le documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle RBG, justement, qui raconte le parcours quand même étonnant de cette petite femme de Brooklyn, de milieu 5, qui a fait des études supérieures, qui a vraiment brisé des barrières. Carrière exceptionnelle, une vraie battante pour l'égalité des sexes, et dans les deux sens, elle s'est battue pour les femmes, mais elle s'est aussi battue pour certains hommes, dans certains cas, qui devenaient hommes monoparentaux et qui devaient élever les enfants et qui n'avaient pas d'avantages sociaux. Donc, bravo. Elle s'est battue toute sa vie. Donc, une œuvre importante, une femme extraordinaire. Seul petit truc, quand même, qui a été noté, elle a été nommée sous Clinton, et elle commençait à être âgée. Elle a fait donc longtemps. Elle est morte en cette année. Elle avait 87 ans. Et depuis quelques années, et surtout sous le règne d'Obama, un président démocrate, des gens disaient, ça serait peut-être le temps de te retirer. Comme ça, Barack pourrait nommer quelqu'un comme toi de progressiste, un peu avec des idées un peu plus de gauche, et protéger cette Cour suprême qui va toujours un peu plus à droite qu'à gauche. Et elle a tenu à tenir son rôle jusqu'à la fin. Mais ce pari a été risqué parce qu'avec ce qui se passe présentement, elle avait donné son siège avant l'élection de Trump, on ne serait pas dans ce marasme politique dans lequel on va être dans les prochaines semaines. où Trump a essayé de nommer évidemment quelqu'un de très, très de droite. Et donc, tous les acquis pour lesquels elle s'est battue. Donc, c'est juste un peu intéressant de constater que ça, est-ce que ça a été une décision un peu égoïste de dire, moi, je vais rester jusqu'à la fin, alors qu'elle a été très malade et qu'elle aurait pu, au deuxième mandat de Barack Obama, dire, je cède mon siège, j'ai fait ce que j'avais à faire et donnons la place à une plus jeune qui, elle, va continuer nos politiques importantes, progressistes, qui défendent les femmes, qui défendent les opprimés et qui ne sont pas à droite à cette vieille Amérique. Et je trouve juste que ça, c'est pas tant mentionné et que ça aurait dû être un peu plus mentionné. Cela dit,
c'est une bonne question.
Un parcours exceptionnel et c'est juste ça que je voulais mentionner parce que regardez ce que ça va être dans les prochaines semaines. Exactement. Et ça va être la guerre, là, je veux dire, à l'interne. Et puis, on espère qu'il y aura plus de sénateurs républicains qui vont défendre et dire non, ça devrait être le prochain président qui va nommer le ou la prochaine juge, parce que c'est la cour d'instance la plus importante du pays, il faut le rappeler.
Mais c'est intéressant, donc, Ruth Bader Ginsburg est vraiment devenue, avec les années, une figure iconique, là, tu sais, c'est vraiment, là, aux États-Unis, tu sais, il y a des macarons, il y a des tasses, il y a des t-shirts RBG, c'est vraiment particulier, parce que tu te dis, quel job plate être juge à la Cour suprême aux États-Unis, mais elle est vraiment devenue, et je regardais, par exemple, sur mon compte Instagram, en fin de semaine, la quantité de gens de tous les domaines qui lui rendaient hommage et dans certains cas reprenaient certaines de ses citations célèbres. À un moment donné, elle avait dit à propos des femmes, elle dit « On ne vous demande pas, on demande pas à nos pères de nous donner un traitement spécial parce qu'on est des femmes. On vous demande juste d'enlever le genou que vous avez sur notre cou et qui nous empêche de respirer. » Et c'est drôle parce que c'est un petit peu la méthode George Floyd, mais cette image-là très forte de dire « Ben, on vous demande pas un traitement spécial, je veux juste que vous arrêtiez de nous étouffer. » Et à un moment donné, elle a dit, aux États-Unis, elle a fait une déclaration, elle dit on lui a demandé à combien de femmes vous pensez que vous allez être content, s'il y a, quel nombre de femmes siègent à la Cour suprême, et elle a répondu 9. Donc il faudrait que... on lui a dit, ça n'a pas de sens que tous les juges à la Cour suprême soient des femmes. Et elle a répondu, ben, pendant des années, il y avait juste des hommes, puis il n'y a personne qui trouvait ça problématique. Donc, une femme avec une répartie extraordinaire, un jugement fabuleux, et des fois des réponses toutes simples à des questions où on essayait de la prendre en défaut. Mais donc, une grande féministe comme on les aime, vraiment un héritage extrêmement important.
Oui, et juste aussi, ça rappelle, comme tu dis, une grande féministe, et c'est incroyable, on a tendance à oublier, mais on regarde, elle, quand elle était étudiante, elle arrivait dans les bureaux de New York, où on disait, on n'engage pas de femmes, les bureaux d'avocats qui disaient, ici, on n'engage pas de femmes, ça fait pas si longtemps que les choses ont changé, et c'est grâce à des femmes comme elle que les choses ont changé, et bravo, parce que tu es une vraie féministe, et une vraie pour l'égalité des sexes, et une vraie femme de tête, d'intelligence, formidable. Alors, c'est à voir ce documentaire pour mieux comprendre le personnage. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant.
Parfait. Ben merci beaucoup. Puis, on va conclure ça en disant RIP RBG. Merci beaucoup, Jean-Michel.
Merci. Bon lundi. Bonne journée.